que de rester dans sa misère et mourir dans cette situation. Et ça, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas qu'on périclite et qu'on meure éternellement, hein, loin de lui, mais il veut qu'on vienne plus près de lui, qu'on retrouve la maison du Père et qu'on connaisse cette relation avec lui. Une relation extraordinaire. Vous savez, le prophète Ézéchiel va dire, « Dis-leur, je suis vivant. » C'est Dieu qui dit au prophète Ézéchiel. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, dira-t-il. » Donc on voit qu'il est nécessaire, et la Bible appelle encore aujourd'hui l'être humain, chacun d'entre nous, si on ne l'a pas fait, à connaître et vivre dans la grâce, à revenir vers Dieu, à chercher Dieu, à connaître le pardon de Dieu. Parce que là, vous l'avez vu, ce jeune homme, ou cet homme-là, le père, alors qu'il est en train de dire ce qu'il a fait, qu'il se repent, il dit à son père ce qu'il a fait, il avoue ses fautes, il obtient miséricorde là, de ce fait. Hein. Voici que le père l'accueille et lui pardonne, et lui rend sa dignité de fils. Quelqu'un a écrit ceci, « Si nous voulons des réponses à ce qu'est la vie, des réponses à propos d'où nous venons, où nous allons, et pourquoi nous sommes ici, à propos de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors l'apprentissage humain ne peut pas nous aider. » C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de solution auprès des êtres humains. « Si nous voulons connaître le sens et le but ultime de la vie humaine, et la source du bonheur, de la joie et de l'épanouissement et de la paix, nous devons regarder au-delà de ce que les meilleurs esprits humains peuvent découvrir. » Les tentatives de l'homme pour trouver ses réponses par lui-même sont vouées à l'échec. Il ne dispose même pas des ressources nécessaires pour trouver les réponses sur lui-même, et encore moins sur Dieu. En ce qui concerne les vérités les plus importantes, celles qui concernent la nature humaine, le péché, Dieu, la moralité, l'éthique, le monde des esprits, la transformation de l'avenir, la vie humaine, la philosophie est en faillite. Comme pour dire, ce n'est pas dans l'état du monde, dans le monde, auprès d'autres personnes qu'on trouve la vie, c'est dans la grâce de Dieu et dans la puissance de Dieu. Le fils Cadet pensait qu'il pouvait vivre comme il le souhaitait, comme il le voulait, hein, et c'est une illusion de croire cela. On peut faire certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On peut penser qu'on peut vivre sans Dieu, évincer Dieu de l'équation de la vie, mais on se trompe, parce que celui qui donne la vie, c'est Dieu. Et notre vie nous est léguée. Hein, et cet homme-là, il a vite compris au bout d'un moment, hein, quand il n'a plus d'argent, quand il a perdu la santé, pas la santé, mais quand il a perdu la famine, il n'a plus de quoi se nourrir, c'est terrible. Hein, mais nous savons qu'on peut perdre la santé, on peut perdre un travail, etc. Et la vie nous est léguée, elle nous est prêtée, et nous pouvons la gérer, mais on ne peut pas faire sans Dieu. Ce jeune homme typifie l'individu qui vit loin de Dieu, mais qui vient vers Dieu. Et vous et moi, nous savons tous que nous sommes invités à, ce matin encore, peut-être si vous ne l'avez pas fait, à venir vers lui, à venir vers Dieu, à vous approcher de Dieu par Jésus-Christ, hein, parce que c'est par Jésus qu'on peut comprendre ces choses. Alors, je vous le rappelle, quelques éléments pour la démarche, pour voir la démarche qu'il a faite. Alors qu'il est loin, qu'il est avec les cochons, il prend conscience de son état et de son besoin. C'est déjà une première chose. Il nous dit, étant rentré en lui-même. Il prend conscience. Et les circonstances de la vie pourraient nous amener à être malheureux, mais en même temps, au travers de ça, il faut réfléchir. Non seulement il prend conscience, mais il envisage de revenir vers son père. Ce n'est pas juste une idée en disant, oui, il faudra peut-être qu'un jour je vienne voir mon père céleste. Peut-être, on verra. Ouais, pourquoi pas. Non, il y a une conscience, mais il y a une conviction. Mais non seulement il y a la conviction, mais il y a un désir profond de faire une démarche. On ne sait pas la distance qu'il a parcourue, il n'a pas juste eu l'idée, mais il va envisager. Il se met en action, à un moment donné il se lève, il marche, et vous imaginez là la pensée, maintes fois il devait se dire qu'est-ce qu'il va me dire, est-ce qu'il va m'accueillir, est-ce que je ne vais pas être rejeté, est-ce que je vais pouvoir parler, est-ce que je vais pouvoir être entendu, etc. Il se met en action pour revenir chez son père, et il va jusqu'au bout. Non seulement il se met en action, il voit le père, le père vient vers lui en courant, il se repent et confesse son péché à son père. Il dit ce qu'il a fait, il dit vraiment qui il est. Et ça, c'est une possibilité pour nous tous, c'est qu'on peut confesser notre péché à Dieu. Et Jésus peut agir dans nos cœurs. Et la dernière chose, qui bien sûr est importante, son père le pardonne et lui rend sa place de fils. Alors lui, il dit, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et le Père lui donne la place de fils. D'accord ? Donc ça, c'est juste un rappel. Je voudrais m'arrêter sur le second aspect. Mais si quelqu'un parmi nous veut le reconnaître, sachez que, si vous voulez le faire, sachez que vous pouvez faire cette démarche, parce que finalement, il a bien fait de faire cette démarche-là. Hein. Il a bien fait. Il a retrouvé sa position, une position bien différente. Il a reçu beaucoup de bénéfices de cette démarche. Est-ce qu'il a perdu quelque chose dans cette démarche? Est-ce qu'il a perdu quelque chose? Quelque chose de bien, non. Quelque chose de mauvais, oui. Il a perdu son orgueil, peut-être, ou son indépendance, son autonomie, pensant qu'il pouvait tout faire tout seul. Et puis, son illusion s'est évaporée. Hein. Ce mirage a disparu. Sachez que la grâce de Dieu, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est inimaginable, intellectuellement. Ça vaut vraiment la peine de se repentir au pied de la croix, n'est-ce pas? Et vous qui êtes engagé avec Dieu, j'espère que vous êtes d'accord. Ah bon, merci. Hein. La repentance est souvent associée à la grâce divine et au salut. C'est jamais indépendant. Hein. Une repentance, c'est en prenant conscience aussi de ce que Jésus a accompli pour nous, Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Jésus lui-même a appelé la repentance comme une condition essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu. C'était pas une option, c'est pas, si vous voulez, quelque chose qu'on peut faire ou pas faire seulement, bon, on verra bien. Hein, mais c'est une réalité principale dans le christianisme, la repentance. Ça se limite pas à un simple regret, la repentance. Mais ça implique une transformation. Et on voit bien le fils avant, là-bas, dans le pays lointain, et le fils après. On voit bien la différence, on voit bien un changement, on voit bien l'état d'esprit. Le père, il n'a pas changé, lui. Le fils est parti pensant que, et il est revenu. Et ça, c'est bon pour nous de se rappeler de ces choses-là. Alors, allons maintenant dans l'autre aspect, comment croître dans la grâce, vous qui êtes engagés, nous qui sommes engagés avec le Seigneur. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces phrases. La première, il vit dans la maison du Père, le fils aîné, mais il nous semble qu'il ne comprend pas trop qui est le Père. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si c'était... Il vit auprès du Père, mais on dirait qu'il ne connaît pas son cœur, et on en parlera tout à l'heure. C'est surprenant. Il est bien son fils légitime, le fils aîné, hein, mais il nous semble qu'il ne perçoit pas bien sa position de fils. Et d'ailleurs, quand l'autre frère revient, c'est un peu c'est conflictuel. Il y a tout un tas de choses qui sont là. Hein. Il semble qu'il n'arrive pas à percevoir vraiment sa position de fils. Il ne comprend pas non plus que son père pardonne son autre fils. Alors ça le met hors de lui. D'ailleurs, ça, quand on lit quand vous l'avez lu, peut-être ça vous a, je sais pas, hein, quand on le lit, des fois ça nous trouble un petit peu. Et il nous semble que quand son frère vient, c'est la goutte qui fait déborder le vase, que son frère pardonne le cadet qui a dilapidé une partie de l'héritage. Il n'a même pas quelque chose pour rembourser, semblerait-il. Il vient, il est un haillon. Hein. Il a vraiment un sentiment d'injustice. Il a vraiment un sentiment d'injustice, le frère aîné. Le père voit et sait que son fils est là-bas, le fils aîné, alors que le cadet est rentré, que c'est la fête, on prépare et on tue le veau gras, on est en train d'apprêter tout ça pour que ce soit un temps de réjouissance, c'est vraiment formidable. Mais le frère aîné, lui, bah, il veut pas rentrer. Il demande au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il apprend ça, il est dépité, hein, et il refuse d'entrer. Alors le père va aller vers lui. Le père va aller le voir et va échanger, vous l'avez lu avec moi, il va échanger et faire rentrer le fils, essayer de faire entrer le fils, de faire participer l'aîné à la fête, ce qu'il ne va pas faire. Ce qu'il ne va pas faire. Alors j'ai envie de dire comment croire dans la grâce de Dieu, surtout n'ayons pas les mêmes réactions que lui. Hein. Ça va? Hein? Seulement, on en a des réactions. Voilà. Et dans ce que je vais partager, on va se retrouver un petit peu les uns les autres. Mais on n'est pas là pour s'auto-flageller, on est là pour chercher le cœur de Dieu. On est là pour s'encourager et pour aller plus loin. Alors, je voudrais parler d'abord de la relation du fils aîné et son père. Cette relation. Et qu'est-ce que ça nous dit à nous, chacun d'entre nous? Nous ne sommes peut-être pas des aînés dans la famille. Nous ne sommes peut-être pas un homme, mais nous sommes aussi, vous êtes une femme. Eh bien, vous pouvez aussi prétendre à ces choses-là. Alors, la première chose, c'est qu'on voit qu'il ne connaissait pas le père, le fils aîné, vraiment. Il ne connaissait pas le cœur du père. Il connaissait le père physiquement, peut-être dans certaines compréhensions, mais il le voyait au travers du prisme de ce qu'il pensait lui, et non pas de ce qu'était son père. Et connaître vraiment le cœur du Père céleste, ça c'est important pour croire dans la grâce. Pour chacun d'entre nous qui connaissons l'amour de Dieu, nous devons veiller à comprendre qui est le Père céleste, à nous encourager à chercher Dieu. Pas le chercher qu'au filtre de notre conception de notre père, par exemple, charnel qu'on a eu, ou de notre manière de concevoir, mais se laisser toucher par ce que le Seigneur dit. Hein. Il considérait que son père avait les mêmes notions que lui, concernant peut-être la justice, le travail, je ne sais pas moi, la miséricorde, les mérites, etc. Mais vous savez que la Bible dit, très régulièrement, on peut le déduire, pas écrit spécifiquement clairement, il dira « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Ça, c'est Dieu qui dit ça. Comme pour dire « faites attention, hein, vous ne trompez pas ». Lui, le Père, il est différent de moi. Et nous, on a tendance à prendre qui est Dieu et le ramener à notre niveau et le mettre dans ce que nous pensons. Mais en fait, Dieu veut faire le contraire. Et là, quelque part, le père de cette parabole, il amène à considérer que son fils a une mentalité qui n'est pas conforme à celle du père. Et il y a une différence. Et nous sommes encouragés les uns les autres dans Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et il dira, « Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Comme pour dire, « vous ne trompez pas de niveau, je suis différent. Hein » Il ne connaissait pas vraiment le cœur du Père Céleste. Et la parole a été donnée pour nous montrer qui est Dieu, l'amour de Dieu, et pour nous dire quelque part, « Élargis ton cœur, ouvre-toi à qui est Dieu. » Hein, ça me le dit à moi, c'est important. Il ne connaissait pas vraiment le cœur de son père. Il ne jouait pas vraiment de sa position de fils. Et ça, c'est terrible. Hein. Et c'est la seconde chose, jouir de nos biens spirituels. C'est-à-dire que si je comprends qui est le père, si je comprends quel est son plan pour nous, si je comprends quelle est son volonté pour moi, je vais pouvoir entrer pleinement dans ce qu'il veut, n'est-ce pas? Hein? Pas vrai? Et jusqu'à présent, le fils, là, on dirait qu'il ne comprend pas bien, on pense qu'il ne comprend pas toujours bien les choses. Il nous y dit, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et puis là, il demande au serviteur, et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il aurait pu dire, ouais, super, courir, aller voir son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Alors son père a la compassion. Hein. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Hein. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, il lui rappelle, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Qu'est-ce que dit le père? Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Voyez-vous, il se peut, comme le fils aîné, que nous attendions en vain des choses de la part de Dieu. Hein? Mais le Père nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus, nous avons tout pleinement. Ça veut dire que des fois, on pense qu'on doit mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais Dieu nous dit, tu réfléchis pas comme je voudrais. Et le fils aîné, lui, il était décalé par rapport au Père. Et croire dans la grâce, c'est s'ajuster à la pensée du Père, au cœur du Père. C'est comprendre... pas intellectuellement, plus que ça, spirituellement, notre position en Jésus-Christ. C'est comprendre qu'il est nécessaire de jouir, pour jouir de nos biens spirituels, de comprendre qui il est. Parce que sinon, c'est comme, si vous voulez, un décalage. Et alors, je réagis sur les mérites, hein, parce que lui, on voit bien cet homme-là. Moi, j'ai toujours été fidèle, moi, j'ai toujours travaillé, moi, je ne suis pas parti, moi, je n'ai pas dépensé l'argent, moi, j'ai moi ceci, moi, cela, moi. Puis la liste est longue. Et sur, au niveau humain, bien sûr, qui ça semble injuste. Au niveau spirituel, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Parce que il est nécessaire de mettre sa foi en action. Si tu crois, si tu sais qui est le Père, et si tu connais le cœur du Père, je dirais ta foi elle va être encouragée à se plaquer à ce que Dieu veut, à recevoir de lui ce qu'il veut te donner. Mais si tu vois Dieu sous le prisme de qui tu es, de ton raisonnement, tu vas avoir, ça va plafonner, ça ne va pas aller très loin, et je le dis pour moi le premier, il faut vraiment que nous encouragions à connaître le cœur du Père et faire attention. Parce que le Père, il est comment? Mais la Bible dit plusieurs fois, je l'ai lu ce matin, je relisais plusieurs passages, il dit par exemple dans Psaume 86, verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Quand tu sais qu'il est riche en bonté et en fidélité, tu peux. Le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. Il n'y a pas de problématique, tu n'as pas d'épuisement du stock ou banqueroute ou je ne sais trop quoi. Dieu est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, si tu es enfant de Dieu, il faut connaître le cœur du Père, connaître qui est vraiment le Père, mais aussi entrer dans ce qu'il a fait pour nous, Et si tu es adopté en tant qu'enfant de Dieu, tu as une possibilité. On travaille l'épître aux Éphésiens, des fois, et vous savez, dans Éphésiens 2, 4, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Parce que voyez-vous, tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est l'amour du Père qui se manifeste pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur nous libère de la mentalité de mendiants. Parfois, on est comme des mendiants. « Seigneur, donne-moi, donne-moi. » Le Seigneur nous a donné et nous donne. Hein? Ayons la mentalité de co-héritier. Béni et comblé en Christ, béni de toute bénédiction spirituelle, et on va le voir aussi dans l'Épître aux Éphésiens, quand il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Hein, ça veut dire, mes amis, qu'on n'a pas à mendier, on a à entrer dans ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, il dira au verset 5 « Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Vous voyez, c'est ça le terreau dans lequel tu peux croître, vraiment grandir dans la foi, grandir dans la vie avec Dieu. C'est cette réalité de ce que la parole de Dieu dit du Père, et non pas ce que toi tu peux penser ou déduire intellectuellement, ça ne va pas très loin, mais lui, il nous rappelle, il nous enseigne. N'oublie pas qu'il a dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Fils aîné, hein. Vu l'état d'esprit du fils aîné, moi j'aurais dit « Écoute, là tu n'as plus rien. Hein. Tout ce que j'ai est à toi ». Et le problème, c'est que lui, le fils, il n'a pas vécu dans cette réalité. Il pensait que Dieu lui donnerait, le père lui donnerait un petit peu des avantages de temps en temps. Mais ce n'est pas ça le principe biblique. Le principe biblique, c'est voilà, tout a été accompli en Jésus-Christ pour que tu vives une vie pleine, une vie glorieuse. Alléluia. C'est ça le terreau hein, dans lequel tu peux vraiment croître dans la foi. Et un autre aspect, il peut exercer en tant que fils pleinement son autorité. Un fils, une fille partagent l'autorité ou l'héritage du père, partagent cette réalité, partagent cette position. Comme il n'avait pas ou plus confiance en son père, cela devenait impossible pour le fils aîné. Il était un décalage par rapport à l'état d'esprit du père, à ce que le père voulait. Et il va même accuser son père d'être injuste, hein, d'être partial. Il préfère son cadet à moi. Hein, et il va avoir une attitude, voilà. Remarquez quelque part aussi que les serviteurs ils étaient à la fête et puis le gars il était au champ là-bas au fond. Comme je ne veux pas vivre près d'eux, je suis loin. Si nous adoptons la même attitude face à Dieu, nous perdons aussi l'autorité du croyant. C'est-à-dire que si on voit un Dieu injuste, si on voit, vous savez comme dans la parabole, je sais que tu es un maître dur, etc., il va cacher le talent. Voilà, parce que voilà, faut pas, tu es comme ça, voilà, il y a une mauvaise perception de qui est le Seigneur, et alors il se complaît dans une forme de distance. Mais si nous adoptons la même attitude face à Dieu, nous allons perdre cette position, cette autorité spirituelle que le Seigneur veut nous donner. Mais si nous vivons dans une joyeuse communion d'amour avec Dieu, dans une bonne relation avec notre Père Céleste par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous pouvons exercer l'autorité de Jésus. Amen, hein ? On peut l'exercer. Nous partageons avec Jésus l'autorité sur le monde, nous avons une autorité sur la puissance des ténèbres, nous avons la possibilité de prier pour la maladie, guérir la maladie, sa parole est puissante. Rappelez-vous, souvent le Seigneur va donner des paroles en disant « j'en ai peu de foi » à ses apôtres, non pas pour les marcher dessus, mais pour les encourager à regarder plus haut et aller plus loin. Il dirait « si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde hein, », vous savez qu'il va dire, hein, « vous pourriez dire à ce mûrier-là, déracine-toi et plante-toi là dans la mer et vous obéirez ». Nous pouvons aussi chasser au nom de Jésus des ennemis. Hein ? Par exemple, la crainte. La crainte. Soit je subis la crainte, soit je maîtrise la crainte. Hein ? Le doute. Soit je me laisse investir par le doute, soit je vis dans la foi. Et mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous pouvons refouler les pensées méchantes et négatives. Nous pouvons dire, Seigneur, parce que tu me remplis, je ne suis plus dans la timidité. Est-ce qu'il y a des gens timides parmi nous ? Vous êtes timide au point de lever la main ? Vous pouvez lever la main ? Ouais, moi aussi, je suis timide même, hein, si ça ne paraît pas. D'accord ? Mais soit la timidité, elle nous envahit, alors on est toujours bloqué, toujours coincé, soit on dit à un moment donné, bon, ça suffit, quoi. Hein ? Tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité, de crainte, hein, je vais pouvoir agir dans ce que tu veux. Peut-être l'angoisse aussi peut des fois surgir. Et la vie, bizarrement, les circonstances, des fois, font que ça s'accumule. C'est bizarre, ça. Hein, de l'opposition. Alors soit je laisse, ben, c'est comme ça, la vie... Je me laisse aller. Soit je dis non, ça suffit. La convoitise, c'est pareil. Soit je la laisse m'investir et alors je suis amené sur un chemin qui est contraire à Dieu. Soit je vais aller plus loin, etc. Pensons à l'orgueil, la jalousie, tous les syndromes d'échec qu'on peut avoir des fois, etc., etc. Commençons au nom de Jésus et persévérons dans ce que Dieu veut. Alléluia. Hein ? Et mes frères et sœurs, on est tous conscients que nous sommes bien des êtres humains là-dedans. Mais dans notre cœur, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons réagir comme des enfants de Dieu. Nous sommes réellement fils et filles du roi des rois. Fils de Dieu, pardon, et co-héritier du roi des rois, Jésus-Christ. Hein ? Donc on vient de voir la relation du fils aîné avec son père, hein, et c'est important, ta relation avec ton père céleste, ma relation avec mon père céleste. Nos relations avec ceux qui nous entourent. Alors voilà. Là, vous avez compris qu'il faut bannir la jalousie. Le frère aîné, il est jaloux, hein, il ne comprend pas. C'est incroyable ça, il a dilapidé l'argent, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vous savez, la Bible dit « la jalousie met un homme en fureur », c'est Proverbe chapitre 6, verset 34. Hein ? Alors, il y a des gens qui disent « mais moi, depuis que je suis chrétien, je ne suis jamais jaloux ». Tu parles. Dans 2 Corinthiens 12, 20, il dira « car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais ». Il parle aux Corinthiens, à la fin de la seconde lettre de Corinthiens. Qui avait quand même une don spirituelle, etc. Hein, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Hein. Ici, le fils aîné se met en colère alors qu'il voit son frère revenir. Au lieu de dire c'est formidable, oh, j'ai prié tellement pour lui, je me réjouis de le voir revenir, hein, c'est formidable. Hein. Hein, s'il y a des bien-aimés qu'on revoit, que Dieu vous bénisse, on n'est pas du tout, moi je suis jaloux de personne, hein, voilà, mais que Dieu vous bénisse. La jalousie vient de la comparaison que nous faisons avec les autres souvent. On se compare. Et là, le fils aîné, il compare, mais moi j'ai fait ça. Et lui, il a fait ça. Et lui, il est pardonné, mais c'est quoi cette affaire ? Et en plus, on tue le bougre, quoi. Alors là, ça suffit. Hein. Vous savez, il y a des fois des personnes nouvelles qui viennent à l'église. Allez, je vais mettre un petit peu, je vais appuyer. Elle est guérie instantanément, cette personne. Et vous, ça fait des années que vous demandez une guérison. Mais dites, oh, alléluia. Ouais, Seigneur, ouais. Hein ? Vous voulez que j'en fasse d'autres ? Non, j'en fais pas d'autres. Je ne voudrais pas avoir d'ennui à la sortie. C'est important de bannir la jalousie, mes frères et sœurs. Réjouissons-nous de ce que l'autre soit béni. Alors bien sûr, des fois ça fait rager, l'autre est baptisé de l'esprit, toi tu ne l'es pas encore, tu dis, il est passé devant, il a doublé par la gauche, oui, ou par la droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien non, ne te réjouis-toi, parce que ça t'appartient aussi, et ça t'appartiendra, ne sois pas à la crainte. Il faut aussi rejeter l'égoïsme, l'égoïsme. Au lieu de se réjouir pour son frère revenu, il va penser à ce que lui aurait dû avoir, lui, pas lui, moi. Mais c'est injuste, parce que il me manque quelque chose par rapport à lui. Lui, il a eu tout ça et moi, je n'ai pas eu, alors que je suis fidèle, lui, il n'est pas fidèle. Il y a un souci, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette vision sur soi amène à une propre justice. Il y a tant d'années que je te sers, a-t-il dit, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et moi, je suis un chrétien de cette église depuis 20 ans. Si quelqu'un est là depuis 20 ans, ce n'est pas vous que je vise. Hein. Sans jamais louper une seule réunion, sans jamais avoir tué, heureusement pour nous, sans jamais avoir volé, sans jamais avoir fumé, etc., etc. Quelqu'un peut dire ça. Tel le fils prodigue qui justifie. Vous savez, Dieu est un Dieu redoutable. Je voudrais souligner ça pour nous encourager à faire attention. C'est un père, mais lorsqu'il est remis en question dans son rôle de père céleste, il est un feu dévorant. C'est-à-dire que, vous savez, si vous regardez Job, à un moment donné, il va discuter avec Dieu, il va dire des choses, on n'a pas le temps, je vais m'arrêter bientôt, hein, mais on voit que Dieu va le remettre à sa place, même si ce que dit Job n'est pas mauvais, mais il est un peu borderline sur des choses, et Dieu va le remettre à sa place. Et Dieu est un Dieu redoutable, hein, et quand on remet en question qui il est, et on commence un petit peu à mal juger qui il est, eh bien je dirais, faisons attention, hein, nous ne pouvons pas nous permettre de remettre en question ses actions parce qu'il est souverain. Il est souverain. Sa grâce est si grande à notre égard que c'est une provocation honteuse de notre part si on commence à remettre Dieu en question. La seule chose, c'est que des fois, on ne comprend pas, mais quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas, et moi je le dis souvent, là je ne comprends pas, alors je ne comprends rien, mais je te fais confiance quand même. Parce que toi, je sais que tu comprends tout. Voilà. Moi, c'est pas assez, ça se limite un peu, hein, beaucoup même. Et puis, se réjouir de l'amour du Père pour tous. Hein ? Je vais terminer par celui-ci. Je pensais, l'autre nuit, je pensais à Barnabas. Pour moi, Barnabas, c'est j'affectionne ce personnage, ce bonhomme-là, ce type-là, cet individu-là. J'affectionne parce que Barnabas, c'est un homme rempli de l'esprit, vous savez qu'il a été choisi, etc. Il s'est converti très tôt au christianisme. Il vend sa terre et il va le mettre au pied des apôtres à Jérusalem, c'est dans Acte 4. Voici qu'ils apprennent les apôtres que Paul s'est converti, Saul de Tarse est devenu chrétien, c'est extraordinaire, en même temps, c'est un peu suspect. Ben c'est Barnabas qui va les chercher, il va parler en sa faveur, et il va dissiper les craintes, Acte chapitre 9. Après, il apprend que là-bas, en Antioche, il y a une église qui est en train de se former, mais voici, il y a des non-juifs là-dedans, dans cette affaire, Antioche, c'est quoi ces non-juifs qui font dans l'église maintenant? C'est nouveau, dans l'église, je comprends. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va aller chercher Paul, et puis ils vont travailler ensemble à Antioche, etc. Barnabas aurait pu se dire, mais moi, ça fait longtemps que je suis là, moi. Ça fait longtemps que je sers le Seigneur, moi. Moi, j'ai donné en plus Dieu. Des pépettes. Paul. Vous comprenez, hein, moi j'aime bien les gestuels. Hein. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Hein. Je suis. Voilà, je mérite. Je mérite. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, on voit que Barnabas, reste à sa place. Et l'apôtre Paul va être. Au début, c'est Paul et Barnabas et Paul, ou Saul. Et après, vous voyez Paul qui va passer devant, il va devenir l'apôtre. Et vous, Barnabas aurait pu être jaloux, mes amis. Il aurait pu. Et moi, j'aime bien Barnabas. Il ne cherche pas à. C'est moi? Il cherche à élever l'autre, encourager l'autre. Il cherche à accomplir le plan de Dieu. Et mes frères et sœurs, nos relations avec ceux qui nous entourent, on doit être dans ce registre-là, je pense, à encourager. Il ne manifeste pas de jalousie. Il ne dit pas, mais quand même, je ne pourrais pas avoir un titre d'apôtre bis, ou je ne sais pas, apprenti apôtre. Hein, ça n'existe pas. Hein, donc, voilà. Et non, il n'est pas dans ce registre-là. Mes frères et sœurs, nous devons nous réjouir de l'amour du Père pour tous. Et si quelqu'un va plus loin que nous dans la vie avec Dieu, alléluia. Si quelqu'un même vous surprend parce que Dieu le fait croître et lui donne des responsabilités, il doit assumer son service. Par contre, que chacun reste à sa place et qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a placés dans le corps les uns les autres comme il a voulu. Et des fois, nous, on pourrait penser que, on cherche nous-mêmes, mais vous savez, notre amour pour Dieu ne dépend pas de ce que l'on présente aux autres, il dépend de ce que l'on est avec Dieu et de ce que il nous demande de faire dans cette fidélité qu'on doit avoir pour lui. Alléluia. On aurait pu dire d'autres choses, je conclue. Vous ne connaissez peut-être pas la grâce de Dieu, et s'il y en a qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, sachez que le Père vous attend dans sa maison. Il vous attend, il vous guette. Et quand il a vu son fils, il a été vers lui, hein, ou sa fille. Il vous guette, que vous soyez peut-être depuis longtemps parti loin de Dieu et que vous vouliez revenir à lui, sachez qu'il est, il a les bras ouverts, il vous attend avec impatience. Dans la parabole, des trois paraboles ici, il nous est dit à chaque fois, réjouissez-vous, car mon fils qui était là perdu, il est revenu à la vie, mais la brebis perdue a été retrouvée, la drachme perdue a été retrouvée, alléluia, c'est la joie. Approchez-vous de Dieu, il s'est déjà approché de vous en Jésus-Christ. Si vous approchez de Jésus, et vous allez vers Dieu, il faut passer par Jésus, vous allez voir, vous allez rencontrer votre Père Céleste et vous connaîtrez la grâce et vous serez fils, alors que lui ne demandait pas être fils, mais il est resté. Et il a été vraiment fils. Si vous voulez croître dans la grâce, vous qui êtes enfant de Dieu, je vais vous inviter à prendre la scène maintenant. Je vais inviter les frères à venir pour la distribution. On va se recueillir. Et je voudrais inviter vous qui êtes engagés avec Dieu, qui avez pris une position adulte dans les eaux du baptême, je vais vous inviter à vous lever à votre place, on va vous distribuer la scène. Mais avant, je voudrais qu'on puisse prier pendant que les frères s'approchent. Levez-vous à votre place, si vous voulez bien. Je voudrais prier, et si nous voulons croître dans la grâce, je voudrais faire cette prière. Je l'ai marquée, hein, parce que je n'ai pas... C'est pas toujours facile de faire comme ça en instant T, mais J'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Je la fais, si vous êtes d'accord, vous direz Amen, hein, si vous la voulez pour vous. Voilà, Père, je te demande pardon de ne pas vivre pleinement et constamment de ton amour et de ta grâce, de ne pas jouir de toutes les richesses que tu m'as accordées en Jésus, de ne pas posséder l'autorité que tu m'as donnée. Pardonne ma méchante et mauvaise attitude de cœur, à certains moments, l'orgueil, le rejet, l'incrédulité, le légalisme, la jalousie, toutes ces choses. Pardonne-nous. Je reçois maintenant, et nous croyons que nous recevons en prenant ce pain et ce vin, ta grâce, la vie abondante en Jésus. Nous avons chanté tout à l'heure, transforme nos vies. Oui, transforme nos cœurs, transforme notre mentalité. Donne-nous de connaître ton cœur de Père de plus en plus. Nous voulons entrer dans la plénitude des richesses que nous avons en toi. Je ne veux plus vivre sous la loi, je veux vivre dans la grâce de Dieu. Et je suis béni en toi, Seigneur. Je te loue, je t'aime de tout mon cœur. Je suis heureux et comblé en Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, pendant que les bien-aimés distribuent, vous pouvez aussi prier ou louer le Seigneur. Faites-le.